Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Y'a pas que le 8 mars.
Bonjour.
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 L'égalité entre filles et garçons, ça se travaille. Ça se travaille dès le plus jeune âge. Ça se construit dans les familles, avec les proches bien sûr. Ça se construit à l'école avec les autres. Voilà le sujet de notre émission d'aujourd'hui et d'octobre. L'égalité filles-garçons à l'école. Un peu d'histoire, des témoignages, une étude.
Et en studio avec nous, un invité, professeur des écoles, qui réagira au fur et à mesure de notre émission à tous ces questionnements.
Radio B, les bonnes ondes.
Avant de nous lancer dans le vif du sujet, un rappel historique s'impose. Michel, tu t'es penché sur la question de l'enseignement des filles.
L'histoire de l'éducation des filles en France est liée à l'histoire de la société dans son ensemble et à l'histoire des femmes. Durant le Moyen-Âge, la Renaissance, filles et garçons sont séparés. On apprend aux filles les travaux domestiques. On leur inculque des principes de vertu, de piété, de bienséance. Le milieu social influe bien sûr directement. Les filles de milieux bourgeois ou nobles sont un peu mieux traitées. Mais toutes apprennent à devenir des épouses modèles. Au XVe siècle, le grand chancelier de l'Université de Paris, Gersen, considère que tout enseignement pour les femmes doit être considéré comme suspect. En 1523, Jean-Louis Vivès enseigne la pudicité, mais aussi une certaine culture pour être agréable à son mari par ses charmes et sa conversation. Au XVIIe et XVIIIe siècle, certains domaines comme la politique, la géographie et l'histoire sont réservés aux garçons. Au XVIIIe siècle, on considérait encore que les femmes devaient être éduquées et non pas instruites. Rousseau, dans l'Émile, dit que les savoirs pratiques subsistent aux femmes dont la seule fonction est de servir les hommes.
Bon, mais alors quand est-ce qu'on se penche sur l'accès à l'enseignement pour les filles ?
L'accès à l'éducation des filles va quand même se développer lentement en France, surtout à partir de 1880. On retient quelques dates importantes. En 1850, la loi Fallou impose aux communes de plus de 800 habitants d'ouvrir des écoles primaires pour filles. Mais filles et garçons sont généralement séparés et l'enseignement est différencié. En 1861, Julie Daubier est la première femme à décrocher son baccalauréat en candidat libre. Elle a 37 ans. En 1868, Emma Chenu est la première femme à obtenir une licence de mathématiques. 1875, Madeleine Bresse devient la première doctorante en médecine. 1881, la loi Camille C permet la création de lycées publics laïques pour jeunes filles. Mais ces lycées sont payants et ne préparent pas au bac. 1908, Marie Curie deviendra la première professeure d'université. 1924, décret de Léon Bérard. Les programmes scolaires et le nombre d'heures d'enseignement sont identiques pour filles et garçons. Les filles vont enfin accéder aux études supérieures.
Alors, ça y est, on y croit, le début du XXe siècle fait entrer les femmes à l'école ?
Oui, mais les filles ne reçoivent pas la même éducation dans les écoles primaires que les garçons. Travaux d'aiguille pour elles, système légal des poids et des mesures pour eux. Au lycée, les filles sont considérées comme peu raisonneuses et privées de philosophie. L'idée est d'avoir pour les filles une scolarité courte et un enseignement allégé. C'est seulement en 1959 que le ministre de l'Éducation nationale, Jean Berthoin, décide de ne plus construire que des lycées mixtes. En 1975, la mixité progresse, progressivement mise en place depuis l'après-guerre et généralisée à tous les degrés de l'enseignement, du primaire au supérieur. C'est au départ plus une réponse pragmatique au manque de locaux et à la pénurie d'enseignants que le fruit d'une réflexion pédagogique et sociétale. Certaines grandes écoles ne seront mixtes qu'à partir des années 1980. Polytechnique en 1972, Saint-Cyr en 1983. Au début des années 80, l'éducation nationale travaille à promouvoir l'égalité entre les sexes. 1989, la loi d'orientation sur l'éducation rappelle que l'école contribue à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et cette mixité devrait donc nous amener vers plus d'égalité.
La mixité n'induit pas l'égalité. De nombreux textes officiels voient alors le jour plus ou moins efficaces jusqu'à la circulaire de 2015 pour la mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, les discriminations liées au genre n'ont pas disparu. Les filles ont une meilleure scolarité que les garçons. En 2021, dans une génération, la proportion des filles bachelières est de 88% contre 78% pour les garçons. Parmi les admis au baccalauréat de la session 2022, 52% sont des filles. Plus de la moitié, 55% des jeunes femmes, sont diplômées de l'enseignement supérieur, contre à peine 45% des jeunes hommes. Toutefois, elles sont très minoritaires dans les formations scientifiques, par exemple. À l'inverse, les formations paramédicales et sociales sont très féminisées et comprennent 87% de femmes. À l'université, elles sont 7 sur 10 dans les filières langues, lettres et sciences humaines, mais seulement 42% dans les formations scientifiques. Quel que soit le diplôme, les femmes insérées sur le marché du travail bénéficient de conditions d'emploi moins favorables. Il y a encore des progrès à faire.
Merci Michel. Natacha, Joël, en 2023, il se passe quoi ?
Alors, où on en est du travail sur l'égalité filles-garçons à l'école ? Alors aujourd'hui, comme l'a montré Michel, on peut dire qu'à l'éducation nationale, les textes, les déclarations de principe, les affichages ne manquent pas. Le principe même de l'égalité filles-garçons est inscrit dans le code de l'éducation comme principe fondamental. Mais en revanche, pour ce qui est des moyens, des actions concrètes, de la formation des équipes, c'est pas glorieux. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2013 et l'expérimentation assez ambitieuse autour des ABCD de l'égalité qui avait été portée par Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors ministre aux droits des femmes, et puis Vincent Peillon, lui, ministre de l'Éducation nationale, on est plutôt sur un retour en arrière. Avec les ABCD, il y avait une vraie ambition. Il s'agissait d'intervenir dès l'école primaire pour travailler sur les représentations des élèves et les pratiques des professionnels, surtout d'ailleurs, en permettant donc aux équipes de se former, en leur mettant à disposition des outils, des ressources, du temps. Alors du temps toujours insuffisant, mais qui avait au moins le mérite d'exister pour travailler ces questions. Malheureusement, on se souvient que dans la lignée de la manif pour la manif pour tous, c'était... ces manifestations, ces mouvements qui s'opposaient au mariage de couples de même sexe. Et donc, dans la lignée de cette manif, quelques réactionnaires de tout horizon ont réussi à enterrer l'initiative qui aurait dû être généralisée à la rentrée suivante. Et depuis, le site internet a été fermé, les documents qui avaient été mis en ligne, les ressources ont été supprimées.
Voilà, en fait, depuis 1973, il devait y avoir une éducation sexuelle obligatoire à l'école. Et en fait, ça incluait l'égalité filles-garçons. Qui s'en souvient ? En 2001, c'est une circulaire qui demande aux établissements de mettre en place 3 séances par niveau de classe et par année, de la primaire au lycée. Les thèmes travaillés avec les élèves sont très larges, sur les stéréotypes, la puberté, la contraception, le désir d'enfant. En fait, sur les relations filles-garçons, hommes-femmes. Depuis, l'éducation nationale a mis en place un label égalité filles-garçons dans certains établissements scolaires. Alors en fait, dans l'un, il y en a un, c'est au collège Saint-Exupéry à Ambérieu. Je n'ai pas réussi à les avoir, donc en fait, je ne sais pas exactement en quoi consiste le fait d'être labellisé. Il y a aussi des référents égalité filles-garçons qui continuent, il y en a un par académie. Ils doivent aider les gens dans les collèges et dans les lycées. Il y a aussi un rapport qui a été réalisé par deux inspectrices générales de l'éducation, du sport, de la jeunesse, qui a été réalisé en 2021 sur le thème de l'éducation à la sexualité et en milieu scolaire. Et ça englobe, comme je disais, cette thématique dont on parle aujourd'hui. Mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des moyens suffisants, des décharges, des rémunérations, du temps ? Non, ça se porte que sur du bénévolat, donc ça fonctionne ou pas. En tout cas, il y a des formations, ça existe encore, et puis il y a quand même des outils. Moi, j'ai été voir là sur Internet, et il y a quand même, quand on regarde sur les sites de EduSchool, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut trouver. À ce jour, le travail réalisé sur ce sujet ne repose que sur la bonne volonté, c'est ce qu'on disait, des professionnels qui sont déjà sensibles, mais ça n'a jamais été fléché dans les emplois du temps. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans tous les établissements.
Sylvain Turpin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous avez un petit peu entendu l'historique et puis la présentation globale. Comment vous pouvez réagir déjà à ce qu'on vient de dire? Vous aviez toutes ces infos en tête?
Oui. Le fait qu'il n'y ait pas de formation pas ou peu de formation et que ça repose que sur le bon vouloir des collègues, c'est exactement ça.
Oui, c'est pas inscrit dans le programme, l'éducation filles-garçons, l'égalité filles-garçons, c'est pas quelque chose qui fait partie du programme officiellement,
ça,
en fait.
Alors, ça fait partie de certaines parties, mais il n'y a pas de... Non, c'est pas quelque chose qui est vraiment inscrit au programme.
Donc, vous, concrètement, est-ce que c'est un thème que vous abordez en classe?
Alors, je pars du principe que c'est plus qu'un terme abordé en classe, c'est plutôt une façon de faire tout au long de l'année, en fait. Je pense que ça fait partie des choses qui vont pas. On va pas faire ce matin, égalité filles-garçons, leçon 1, leçon 2, etc., etc. C'est des choses qui se vivent au quotidien dans la classe, par plein de choses. Alors moi, juste pour resituer le contexte, j'ai les élèves pendant plusieurs années dans ma classe. C'est un multiniveau. Et du coup, déjà, je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour instituer les choses. Alors même si on n'a pas une classe à multiniveau, ça peut être quelque chose dans une école, je pense, qui se fait en concertation avec les collègues sur plusieurs années, je pense que c'est une des choses qui peut faire que ça fonctionne. Les choses que je mets en place dans ma classe, par exemple, c'est déjà être attentif au choix du matériel qu'on utilise, notamment le choix des éditeurs. Alors, je ne vais pas faire de pub pour les uns pour les autres, mais faire attention au matériel qu'on utilise.
Donc les manuels scolaires.
Les manuels, alors, même si je n'utilise pas forcément beaucoup de manuels, mais plutôt la littérature, les livres qu'on va lire, les textes, voilà. Il y a des éditions qui font des choses très bien, qui sont engagées, qui ça c'est... Et faut plutôt aller voir de ce côté-là. Ensuite, des choses toutes bêtes, mais il y a les affichages qu'on utilise en classe. Les affichages qu'on trouve dans toutes les classes, sur les temps de conjugaison, les choses comme ça. Depuis que si on prend les affichages classiques, on a toujours droit au « il, elle, on » dans ce sens-là et jamais dans l'autre sens. Alors moi, je suis passé par plein de phases, j'ai alterné, j'ai enlevé, j'ai mis, donc maintenant, les derniers que j'ai mis, moi, c'est le « elle » est en premier, voilà.
C'est un détail, mais ça peut avoir du sens.
Ouais, alors ce qui est drôle, c'est que du coup, je me rends compte quand j'accueille des élèves moi j'ai des élèves du CP au CM2, donc souvent ils arrivent dans ma classe, ils n'ont pas vu ce genre d'affichage et ils n'en verront pas, enfin, c'est les seuls qui voient, c'est ceux de ma classe. Et quand j'accueille des élèves qui arrivent d'autres écoles, du coup, c'est souvent une question qu'ils me posent, de se dire, ah tiens, c'est pas comme dans... Enfin, là, ce coup-ci, c'est pas dans le même sens que d'habitude, enfin bref, et du coup, ça permet d'en discuter, c'est assez intéressant. Et la même chose quand on choisit quand on travaille sur des phrases d'exemple, en grammaire, j'essaie au maximum de prendre toujours le contre-pied. C'est la maman qui bricole dans la voiture, le papa qui fait la vaisselle, etc., etc. Soit ça questionne, soit ça questionne pas, et du coup, c'est comme ça.
Vous l'avez dit, y a quand même des outils, et puis Joël l'a aussi montré, qui existent quand même pour aborder ce sujet. D'ailleurs, Joël, toi, tu t'es procuré un de ces outils?
Oui. Alors voilà, ce qui est écrit dedans. Imaginez la vie dans 50 ans, ça a été le thème qui a été donné à une classe de seconde. La plupart des filles décrivent leur vie domestique, ça se passe en ce moment, leur vie domestique, leur mari beau et riche, leurs enfants, leur maison. Les garçons parlent de leur voiture et des gadgets informatiques. Se tenir droite, rester à sa place, être sage, se taire, conduisent à perpétuer un monde inégalitaire qui n'en finit pas de se reproduire. Apprendre, c'est expérimenter, nous disent les autrices. Faire preuve d'audace, ouvrir des possibles, l'école doit construire la mixité des genres. Ceci, c'est un extrait de « Entrée en pédagogie féministe ». C'est un livre qui vient de sortir dans une petite collection chez Libertalia, coécrit par Audrey Chenu et Véronique Decker. Et d'ailleurs, anecdote, quand j'ai commandé le livre dans une de nos librairies ici, à Bourg, la personne, quand j'ai donné le titre, elle m'a dit « Ouh là là !»
Dans quel sens? Comment
dans quel sens? J'ai pas demandé. Professeur des écoles et directrice, ces deux autrices nous font partager tout ce qu'elles ont glané dans leur expérience pédagogique, leurs recherches, leurs convictions, des idées, des pistes de travail, des ressources classées dans un abécédaire qui commence par A comme audace et qui se termine par Z comme émotion et qui passe par R comme récréation. Dans la cour de récréation, les garçons occupent une grande partie de l'espace, nous dit-elle. Ah bon ?
Edith Maru et Joule, c'est docteur en géographie, spécialisée sur les questions de genre. Elle a notamment produit cet essai, « Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants ». On a discuté cours de récré, foot, jeu calme et toilettes. Qu'est-ce qui est ressorti de vos explorations des cours de récré ?
Pour la norme, c'est la norme. Voilà. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la séparation des corps physiques, elle vient d'abord d'une posture des garçons. Alors, pas tous les garçons, hein, mais pour faire non-mixité, il suffit qu'il y ait un groupe qui vous dise « je joue pas avec toi ». Vous voyez ? Et les garçons ne jouent pas avec les filles. C'est quand même... Alors, en fonction de la manière dont on a mis en scène, finalement, le jeu des garçons. C'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que dans l'organisation spatiale d'une cour de récréation, dans la majorité des cas, on va centrer des jeux dits de garçons et légitimer, par exemple, la partie de foot. Hein, c'est quand même quelque chose qu'on voit encore beaucoup dans les cours de récréation. Donc, c'est un terrain, hein, c'est un espace qui est organisé pour leur jeu, qui est souvent animé, c'est-à-dire co-veillé par un adulte, donc qui est très légitime aux yeux des autres. Hein, c'est l'endroit où il y a l'adulte qui organise l'activité. Sauf que ce qui n'est pas interrogé, c'est qui joue en fait. C'est-à-dire qu'on est sur la mise en scène de la performance, hein, et la performance des garçons en foot, et en particulier des grands garçons, c'est une inscription sociétale. Hein. Donc en fait, les filles, d'abord, elles vont avoir comme de non-recevoir, ou en tout cas comme impossible égalité, le fait qu'on leur dise « tu es une fille, tu es nulle ». D'accord ? Donc tu ne joues pas avec nous. Elles vont se retrouver entre elles, mais il y a d'autres garçons aussi qui sont occupés de cet espace. Et la question, elle est pourquoi les autres garçons, avec ces filles, finalement, ne font pas un peuple, un autre groupe qui est celui de la mixité. Parce que c'est aussi une problématique pour les autres garçons de jouer avec les filles, ou au jeu dit de filles, hein, mais qui ont encore une prégnance dans la cour de récréation. Hein, ça existe encore, ça, la question des filles à quoi elles jouent et des garçons à quoi elles jouent. Eh bien, c'est problématique pour eux parce que moi, j'entends, je ne risque pas d'aller jouer à la corde à sauter ou avec les filles ou de manger avec les filles parce que j'ai peur d'être traitée de fille. Donc, il y a la notion quand même de honte, de déchoir, et ça, c'est aussi un portage sociétal. Donc, en fait, il faut agir à la fois sur le jeu ensemble, filles-garçons, hein, ou le jeu des garçons avec les filles, mais il faut aussi agir sur les filles comme sujet légitime d'un espace. Je m'explique. C'est-à-dire que ce qu'on entend aussi souvent, c'est que on parle souvent, vous savez, des petits jeux de filles. Mais les petits jeux de filles, c'est un jugement de valeur sur ce qu'elles portent, c'est petit, sociétalement, vous voyez. Et surtout, on ne l'organise pas. C'est-à-dire qu'un petit jeu, il s'auto-organise. Sauf que ça a laissé donc qu'elles puissent pas faire de grands jeux, puisqu'elles n'ont pas d'espace à elles. Ça a aussi laissé qu'elles sont très peu accompagnées par un adulte, par exemple, vous voyez, animateur ou animatrice. Et donc, du coup, ça ne la rend pas visible pour les autres. Donc, quand on travaille sur l'aménagement de l'espace, on travaille sur partager, c'est-à-dire qui joue avec qui décide de qui joue avec qui, ça c'est une vraie question, mais qui décide du jeu aussi. Hein. Parce que partager, c'est pouvoir asseoir son sujet aussi à l'espace de cours. Donc, si j'ai envie de danser, de faire de la gym, de faire tourner grandement ma corde à sauter, je dois pouvoir avoir l'espace, et le jugement de valeur, il n'est pas de dire que faire égalité, c'est que les filles jouent au jeu des garçons. C'est aussi qu'elles aient leur jeu. Et la place pour leur jeu. Voilà.
Il y a quelque chose que vous évoquez dans votre livre, c'est trois enjeux. Vous définissez trois enjeux à travailler. La question de l'égale redistribution de l'impôt, vous expliquez, vous donnez des chiffres qui font peur quand même. Vous expliquez que 10% d'élèves occupent 80% de l'espace de récré. Il y a aussi cet enjeu de l'égal accès à la citoyenneté. En fait, la citoyenneté, c'est là où on apprend que dans la société, il faut faire avec les autres. Et puis, sur cette question des relations filles-garçons, vous expliquez qu'elles doivent être apaisées. Ça passe par ces jeux dans la cour de récré. Concrètement, ça pourrait être quoi les solutions à mettre en place pour répondre à tout ça et à tout ce que vous venez d'évoquer? Parce que ça a l'air d'être quand même un gros chantier.
La question de l'égale redistribution de l'espace, c'est la question du partage, tout simplement, qui se fait à la fois sur plusieurs niveaux. qui se fait sur le niveau de qui décide du jeu dans un espace dynamique. Hein, et ça, on a des solutions. On peut très bien, parce qu'il faut bien choisir un jeu collectif. Donc, il y a des solutions en termes d'animation. On peut faire appel au hasard. Donc, on va travailler sur des roues du jeu au hasard. On va travailler aussi sur tous les jeux possibles sur cet espace-là. Donc, comment on décide, comment on travaille ensemble cet espace-là. Mais on va aussi travailler sur partager, c'est avoir d'autres espaces. C'est-à-dire qu'il y a aussi une hiérarchie sur le fait de dire que le jeu collectif ou le jeu dynamique est le jeu phare de la relation. Alors qu'en réalité, encore une fois, c'est souvent les filles qui le portent aussi. Mmh. Est-ce que discuter, jouer au jeu de société, avoir un espace calme, c'est pas aussi des espaces relationnels. Mmh. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir équilibrer un espace de cours avec du jeu dynamique, du jeu intermédiaire et un espace calme. Parce qu'un espace calme, c'est un espace aussi où on se retrouve soi. L'espace de la lecture, par exemple, réhabiliter les lecteurs et les lectrices, mais c'est aussi les espaces pour les enfants, pour l'inclusion. C'est-à-dire que les enfants qui ont besoin, à un moment donné, de se poser, d'avoir leur corps qui n'est pas forcément percuté par les autres. Vous voyez, enfin, donc, et ça, on le rend visible à l'espace de cours, parce que si on enferme ces espaces-là, faire perles, lire, etc., ça ne fait pas valeur sociétale.
Vous voilà. Évoquiez même dans votre livre, et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, la question des toilettes. Expliquez-nous comment ça pourrait fonctionner.
La question de la mixité, c'est d'abord la question de la non-mixité. C'est-à-dire là encore, comment une société ne voit pas que séparer les corps physiques des 6 ans, c'est séparer les corps sociaux, et c'est aussi un message pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez, petite fille, quand on vous dit, ah, vous avez votre coin à vous pour aller aux toilettes et les garçons ont leur coin à eux, ça veut dire que donc c'est pas possible en fait que je dois avoir peur, il y a un danger pour moi. Et pour les petits garçons, cette question aussi d'être potentiellement dangereux pour les filles, et puis ça crée tous ces mondes, ça crée ça, eux ils sont sales, ça résout jamais les problèmes des règles, par exemple, moi il faut être mixte, je les veux au collège aussi. Et ça ne s'attaque pas aux vrais problèmes qui sont que à l'école, 8 enfants sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes alors que les blocs sont non mixtes. Donc c'est pas ça qui est un problème. Vous voyez, ça a masqué les vrais problèmes et les vraies catégorisations. La séparation fille-garçon et femme-homme, elle est très souvent peu pertinente dans les problématiques sociales. Je comprends même pas comment c'est pas déjà réglé. Donc moi, dans tous les établissements où je passe et tous les établissements neufs qu'on construit, il n'y a plus de noir. Voilà. Donc on neutralise et il faut être à l'intimité dans la cabine. Quand vous allez aux toilettes, on ne peut pas vous regarder en dessous, on ne peut pas vous ouvrir la porte, on ne peut pas vous écouter. Ce qui est très important, c'est de pouvoir surveiller les blocs sanitaires.
Oui, c'est créer des espaces sûrs et liberté à l'école.
Bien sûr, et qui sont protégés effectivement par les adultes et qui protègent, qui disent l'école, c'est le lieu de la relation fille-garçon. C'est le lieu qui protège ça.
Merci à Edith Maruet-Jouls, géographe. Le livre « Faire jeu égale penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants » est encore disponible.
Alors, sur cette question de l'occupation inégalitaire de l'espace à l'école et en particulier de la cour de récréation, on peut signaler un excellent court-métrage d'Éléonore Gilbert qui se nomme « Espace » et qui a été produit en 2013. Dans ce documentaire, la réalisatrice Éléonore Gilbert filme en plan fixe une enfant qui a environ 7 ans et qui raconte la répartition des jeux et la répartition de l'espace pendant la récréation dans son école. Elle est assise face à la caméra avec une table, enfin face à la caméra à une table avec une feuille et un crayon. Et pour illustrer ses propos, l'enfant va réaliser au fur et à mesure, sous nos yeux, un croquis de la cour de récréation de son école.
Le problème, c'est que ils ont beaucoup de terrain dans la cour, puis des fois ils vont en dehors des terrains et du coup on a encore moins de place parce que les terrains ils occupent presque toute la cour. Bah en fait, si ça c'est la cour, avec ici il y a l'école. Bon, elle est plus grande l'école normalement, mais là, si c'est comme ça, là il y a nos toilettes des grands. Là, il y a les toilettes des petits à peu près sous le préau. Là, en fait, là, il y a un préau. Non, les toilettes, elles sont ici. Là, il y a un préau. Je vais colorier comme ça les endroits où on ne peut pas jouer. Bon, bien sûr, les filles, parce que les garçons, ils ont le droit de jouer au foot, donc...
Voilà, donc petit à petit, ben, son dessin se précise. Elle positionne, on l'a entendu, les toilettes, le préau, mais aussi la cantine, les espaces que les grands se réservent. Elle place aussi les limites du terrain de foot, mais là, souvent, les garçons dépassent. Elle ajoute le terrain de basket, le terrain de ballon prisonnier. Elle dessine les buissons et la porte d'entrée des petits. Mais là, on n'a pas trop le droit d'aller. Puis elle assure les espaces qui restent disponibles et à la fin, entre les endroits interdits par les adultes, les espaces que les grands s'octroient et ceux qu'occupent les garçons, eh bien, il n'y a presque plus de place. Il ne reste que des tout petits bouts éparpillés ici et là. On le voit très très bien sur son dessin, c'est très marquant et visuellement, du coup, très efficace. Face à cette injustice, comment se faire entendre? Alors, la petite fille, elle nous explique que les autres enfants, filles et garçons, ne semblent pas particulièrement concernés par le problème. À plusieurs reprises, elle a dit qu'elle a essayé d'expliquer ce qui lui posait problème à ses camarades, mais on ne l'a pas écoutée. Que faire alors?
Et puis, du coup, je vais lui passer sur un papier écrit. Et puis après, je vais revenir quand il l'aura lu et je vais lui demander ce qu'il en pense pour savoir, parce que moi, ça m'embête vraiment, parce que la cour, elle est à tout le monde, après tout, parce que... Là, bon, bien sûr, il y a plein de petits endroits où on peut jouer. Mais si on les rassemble tous, ça fait un gros endroit, on peut se dire. Mais ils sont pas à côté. Et quand tu veux jouer à un gros truc comme les garçons avec leur foot, ça prend tout ça. Et puis, je sais pas, nous, on est obligés de prendre ça. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit, quoi.
Voilà, elle devient très en colère, on l'entend. Alors que faire? S'adresser aux adultes pour obtenir justice? Ce qui est très très frappant dans le témoignage de cet enfant, c'est l'absence de réaction des adultes de l'école. Elle le dit à d'autres moments hein, dans le documentaire. Elle a pourtant interpellé sur ce problème de lutte des places dans la cour de récré les adultes autour d'elle. Alors ça pouvait être des professionnels du périscolaire ou des professionnels de l'école. Et ça m'a fait penser à l'idée développée par la sociologue Marie Durubella de sexisme par abstention. Cette idée, en fait, que si, face à ce type de situation, face à des stéréotypes, des inégalités, si on laisse faire, si les adultes n'agissent pas, ils vont contribuer à renforcer et deviennent donc sexistes par abstention, par inaction, si on préfère. Et c'est bien ce que souligne aussi très fortement le documentaire Espace d'Éléonore Gilbert avec ce témoignage brut et touchant d'une petite fille en colère. C'est que sans démarche volontariste de la part des adultes, l'école perpétue, valide et donc aggrave les inégalités filles-garçons.
Sylvain Turpin, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Vous êtes toujours professeur des écoles. Vous avez entendu plein de choses là. Comment ça se passe? Alors, dans votre école, c'est peut-être un peu particulier, mais vous avez aussi le regard des collègues.
Oui, c'est vrai. Dans mon école, c'est un petit peu particulier parce que on n'est pas beaucoup, donc on a déjà ce truc tout bête, mais le fait d'avoir beaucoup de la place par rapport au nombre d'élèves. Mais ce que j'écoutais, ça m'évoque le fait de pouvoir en parler aux adultes. Je pense qu'il est aussi important d'avoir des espaces de réelle prise de décision des enfants dans les écoles. Dans ma classe, par exemple, il y a deux fois par semaine, on fait des réunions de classe. Ça peut s'appeler conseil de classe ou autre chose, où les enfants ont du coup un vrai pouvoir de décider, de discuter, de ce qui se passe dans l'école, et en particulier dans la cour de récréation. C'est des sujets qui reviennent souvent. Et la place prise par les jeux, le fait que tel jeu gêne tel autre jeu, ça revient très régulièrement. Et du coup, quand on en discute, on prend une décision, on l'applique, on voit ce que ça donne, on revient dessus, on revient pas dessus, mais il faut que ce soit des vraies décisions qui fonctionnent vraiment, que ce soit pas juste quelque chose de cosmétique. Voilà. Et je pense que je crois beaucoup en ça. Le fait de voir qu'ils ont la main sur ce qui se passe dans la cour de récréation réellement, et du coup que ça se discute. Et dans ma classe, quand on participe à ce genre de quand il y a ce genre de débat, je participe au même titre que les enfants. Enfin, je lève le doigt. Donc là aussi, je peux donner. Il faut être aussi vigilant là-dessus, donner son avis, mais sans. sans que l'adulte devienne le décideur absolu à chaque fois.
Alors, c'est peut-être facile pour le coup dans votre école, mais c'est vrai que cette place de l'adulte, elle est importante. Vous, vous avez l'air de vous y attacher. Est-ce que vous avez pu connaître des expériences ailleurs dans d'autres écoles? Et est-ce que ça paraît jouable partout, là, cette place des enfants?
Oui.
C'est idyllique, là.
Oui, oui. Non, mais il y a des écoles, il y a des grosses écoles qui mettent ça en place. Hein. C'est pas, là, moi, ça se met en place à l'échelle d'une classe, parce qu'il n'y a qu'une classe, mais ça peut très bien se mettre en place à l'échelle d'une école, même au sein de chaque classe dans une école. Si le fonctionnement est le même dans toutes les classes, ça fonctionne aussi. Après, effectivement, nous, c'est hyper rapide entre la prise de décision et l'application, mais non, si, ça peut fonctionner. Il y a des écoles, il y a des... tout à l'heure, on parlait de Véronique Decker, qui fait partie qui est militante de la pédagogie Freinet. Et dans plein, il y a des écoles qui fonctionnent tout un peu en mode pédagogie Freinet, qui appliquent ça, des grosses écoles, notamment à Montpellier. Pendant très longtemps, il y avait une très grosse école qui fonctionnait comme ça.
On parle de la place des adultes, là on a parlé plutôt des professeurs ou des animateurs, animatrices, centres de loisirs, enfin voilà, des professionnels on va dire. Mais il y a aussi la place des parents, moi j'aimerais bien aussi qu'on puisse en l'aborder, on ne l'a pas beaucoup abordé, on ne l'entend pas là depuis le début de l'émission. Comment ça se passe pour travailler cette question-là avec les parents? Est-ce qu'elle se travaille d'ailleurs avec les parents?
Je pense que c'est moins évident. Après, je pense qu'il y a des dispositifs pour faire en sorte que la présence des parents, notamment dans les réunions, faire en sorte que ce soit autant les mamans que les papas. Alors, suivant les endroits où on enseigne, c'est un peu les différentes réalités. Il y a des endroits où permettre, par exemple, que les enfants puissent être présents à des réunions permet aux mamans de venir aux réunions. Et je pense que c'est important de faire attention à ça. Et dans d'autres endroits, moi, c'est plutôt qu'on voit que les mamans en réunion. Donc, c'est un peu là, pareil, il faut essayer de faire en sorte que ça alterne, inciter les gens à venir, quel que soit ce qu'on fait à l'école. Et puis, ça passe beaucoup aussi par les moments informels, je pense. Quand on fait les fêtes d'école, les kermesses, les spectacles, essayer de faire en sorte que, bah, pareil, la distribution des rôles, ce ne soit pas les papas qui installent les tables et les mamans qui tiennent la buvette, enfin, ce genre de choses, en montrant l'exemple, du coup. Voilà, quand je suis présent dans ces fêtes-là, j'essaie de montrer l'exemple. Voilà.
On a interviewé d'autres professeurs des écoles, on les écoute.
En classe, au quotidien, est-ce que vous abordez la question de l'égalité filles-garçons?
C'est plutôt des choses qui se passent dans la cour ou qui se passent en classe qui vont faire que je vais adopter une certaine posture pour amener à réfléchir sur ce sujet.
Il y a des moments plus particulièrement où on va le travailler. Moi, je sais qu'avec les grands, je travaille en littérature sur un album qui s'appelle Renversante, qui est en fait un livre où la société est complètement inversée. Donc, c'est une domination des femmes, en fait. Et tout est féminisé, tout le pouvoir est donné aux femmes, c'est vraiment tout l'inverse. Et du coup, de lire ça, c'était aussi... j'ai souvent travaillé sur cet album-là.
Déjà, les vraiment petits, ils ne savent pas comment on sait qu'on est une fille ou un garçon. Et ils n'identifient pas forcément ça lié au sexe. Ils vont identifier ça lié à la longueur des cheveux, ils vont identifier ça le fait qu'on porte telle ou telle couleur de vêtements, ou qu'on a des bijoux, ou qu'on a des boucles d'oreilles, ou des choses comme ça.
Alors, pour commencer, il y a un axe qui est important à prendre en compte, c'est déjà faire le constat que les enfants à la maison ne reçoivent pas forcément tous la même éducation en fonction de s'ils naissent garçons, de s'ils naissent filles. Et donc, arrivés en classe, ils ont déjà un certain bagage là-dessus. Donc, pour certains, c'est des bagages assez marquants. Donc, l'une des premières choses à faire en tant qu'enseignant, et ce que j'essaye de faire, c'est de balayer ça et de porter exactement le même jugement sur une fille que sur un garçon.
Alors, dans les classes, est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des façons de faire?
Les garçons prennent beaucoup plus de place, en fait. C'est-à-dire qu'ils coupent beaucoup plus la parole. Ils peuvent parler plus longtemps. Alors, encore une fois, hein, je fais des généralités. On n'est pas sur tous les garçons et tout ça, mais je parle de manière générale. Et en fait, du coup, en tant qu'enseignante, si on n'y fait pas attention, on se laisse assez facilement avoir par cette prise de place-là.
Alors, je vais faire un choix sur les phrases et sur les lectures. Moi, j'ai encore du mal à trouver, par exemple, des manuels où on a une fois un héros et une fois une héroïne.
Il peut y avoir aussi cette facette-là, c'est-à-dire des fois changer les problèmes de mathématiques pour que... c'est des trucs tout bêtes parfois, mais c'est aussi qu'on parle du salaire de la femme quand on parle des salaires, tout ça. dans l'histoire de France, qu'on travaille avec eux aussi, c'est comment est-ce qu'on amène des personnages féminins plus que ce qu'ils n'ont l'habitude de voir et que plus que ce qu'il y a dans les manuels.
Comment ça fonctionne au niveau des jeux, au niveau de la cour, au niveau de l'espace qu'ils ont les uns les autres?
Dans la réalité, garçons et filles jouent aux mêmes choses. En jeu de construction, je dirais qu'il y a davantage de garçons, que les filles vont moins spontanément. Et du coup, moi, souvent, je le mets en atelier pour qu'elles découvrent. Et après, du coup, elles y vont naturellement.
Je sais que mes CM1 de l'année dernière, il y avait garçons et filles qui jouaient à la corde à sauter, des grandes cordes à sauter, et qui jouaient tous ensemble. Et qui étaient très heureux, justement, d'arriver à sauter le plus vite possible et tous ensemble. Donc, suivant les règles mises en place dans l'école, les enfants peuvent jouer tous ensemble, garçons et filles.
Et ben en fait, dans les cours, il y a deux façons de faire. C'est-à-dire, soit l'enseignante se dit que c'est un peu le temps libre de tout le monde et s'en occupe pas du tout. On se dit qu'on est tellement déjà toujours derrière leur dos qu'on les laisse faire. Mais en fait, quand on les laisse faire, ben ils font comme ils voient autour d'eux, donc ils jouent pas ensemble. Soit on intervient et du coup, on oblige un peu. Enfin. On incite à jouer ensemble.
La cour a été refaite par la municipalité dans l'idée de débétumiser, c'est-à-dire d'enlever un maximum de béton. Ça limitait les endroits où c'était que les garçons qui couraient et que du coup les filles se mettent plutôt sur le bord pour pas se faire renverser, tout ça. Comme là, il y a des espaces plus variés où on peut faire des choses plus variées, et ben ça fait apparaître des jeux qui n'existaient pas avant, où ils font des choses ensemble. Ça veut pas dire, c'est pas d'un coup, il y a des garçons qui effectivement n'aimaient pas forcément courir toute la récréation, et ça a instauré des choses beaucoup plus mixtes.
Et dans notre école, on a un petit projet aussi autour des jeux de cours, où on met des raquettes, où on met des élastiques à disposition. Et si au début, c'est plus les filles qui vont investir ce matériel-là, puisque les garçons, eux, vont être sur le centre de la cour, ben on remarque quand même que certains garçons se l'autorisent. Et dans notre mise en place de ces jeux de cours, on fait en sorte de ne pas genrer les élastiques par les couleurs, par exemple, ou par l'endroit où on le met à disposition. Donc c'est quand même toute une réflexion, toute une gymnastique à avoir.
Voilà, alors là, on est allé dans différentes écoles. Il y a eu une école maternelle avec les tout-petits. Après, il y avait école primaire jusqu'en CM1, CM2 à peu près. Et alors donc, Sylvain, est-ce que vous nous avez parlé déjà de pas mal de choses qui ont été reprises là par les autres professeurs. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question par rapport à la prise de parole. Là, est-ce qu'il y a... Comment vous faites? Il y a un système?
Alors, pas de système particulier, je trouve ça un peu compliqué, enfin de mon point de vue c'était compliqué à mettre en place dans ma classe, mais par contre je suis attentif au fait d'alterner ou du moins d'équilibrer les prises de parole. Alors quand on a un multiniveau sur plusieurs années, ce qui se passe souvent c'est que la prise de parole, le temps de parole est pas tant réparti en termes de filles-garçons que d'ancienneté. C'est souvent les plus grands qui...
De grands par rapport aux petits.
Ouais, alors que ce soit des filles ou des garçons, pour le coup. Mais on est attentif à ça. Et oui. Et alors après, ouais, j'ai souvent eu, moi, quand même des filles un peu leaders qui du coup, prenaient bien la prise de parole. Et c'est vrai que, j'ai tendance à même peut-être un peu déséquilibrer dans leur sens. C'est pas grave, c'est à part le plus. En me disant que ça équilibrera peut-être sur le reste de leur vie ou par rapport à d'autres écoles.
Mais justement, je trouve que c'est intéressant cette question-là aussi de comment on se déconstruit, nous, en tant que professionnels. On l'entend à un moment donné, hein, l'enseignant qui dit les enfants arrivent avec leur bagage familial. Est-ce qu'on les parents ont projeté sur une fille ou un garçon? Puis bah, nous aussi, en fait, on a tous en tête des projections, des stéréotypes, des façons de se construire. Comment on apprend ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à la formation des enseignants? Ça se fait comme ça, au coup par coup? On lit? Comment on fait?
Non, alors la formation des enseignants, peut-être, j'en ai pas souvenir particulier, mais même si ça date un peu. Mais non, je pense, enfin là, pour le coup, c'est plutôt quelque chose de personnel, par lecture, par militantisme.
Mais... Dans le livre dont je parlais tout à l'heure, donc « Entrée en pédagogie féministe », à la fin, je disais qu'il y avait des outils, qu'il y avait des choses pour aider. Il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, ce sont des grilles d'analyse qui ont été faites par certains groupes dans certaines académies et justement qui permettent à l'enseignant de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'il fait. Et donc, ça répond bien à ce que tu dis, Élodie, qui fait que... Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a nos représentations qui passent aussi.
Eh bien, merci en tout cas pour vos interventions à toutes et à tous. Merci aux professeurs qui ont accepté de témoigner et puis aussi à Edith Maruet-Jules pour son éclairage.
Alors le mois prochain, on abordera une question qui revient souvent au mois de novembre, c'est sur les violences faites aux femmes avec des invités en studio. Et puis pareil, des recherches, des bouquins. À bientôt en tout cas.
À bientôt.
Je m'appelle Théo et j'aime les poupées. Surtout celle aux cheveux frisés. J'adore jouer à les coiffer. Mais mon papa trouve que c'est suspect. Au lieu de m'offrir un sèche-cheveux, j'ai eu un camion à gros pneus. Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Je m'appelle Manon et j'aime les voitures. J'adore faire rugir les moteurs. Je rêve de conduire un tracteur. Ma maman dit que c'est contre nature. Circuit, on m'achète une poupée Barbie. Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Y'a pas de zizi à mes outils. Pas de zizi à mes outils.
Y'a pas de zézette à ma poussette.
Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon. Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
Ou même coiffeur de star. On voit plutôt vétérinaire.
Et moi bien sûr en infirmière.
Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Y'a pas de zizi à mes outils.
Pas de zizi à mes outils. Y'a pas de zézette à ma poussette. Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
Bof,
mais
bof,
mais bof,
mais bof,
bof, bof,
bof, bof,
bof,
mais bof,
mais bof,
bof, bof,
bof,
bof.
Ce soir papa nous a fait à manger. Pour une fois que c'est arrivé, c'était bon, on s'est régalé.
Mais quand maman à la fin de sa journée
s'assirait bien sur le canapé, y'a tout le linge à repasser.
Y'a pas de zizi à mes outils.
Pas de zizi à mes outils.
Y'a pas de zézette à ma poussette.
Pas de zézette à ma poussette.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut chanter la même chanson.
On peut chanter la même chanson.
Que l'on soit fille ou bien garçon.